Chapitre 9. Chacun sait que les obstacles ne font que surexciter les amoureux. Or, Julien Zébozac était amoureux fou. Plus Camille Monistrol lui marquait de froideur, plus il l'adorait. Il en était venu à l'adorer bêtement. Ce charmant garçon, qui avait eu de nombreux succès dans tous les mondes et qui aurait dû connaître les femmes, s'obstinait à persécuter de ses assiduités une jeune fille qui ne lui témoignait que de l'indifférence et qui avait fini par refuser nettement de l'admettre chez elle. Il savait qu'elle recevait un monsieur de Ménestreau et il n'avait pas l'énergie de lui demander l'adresse de ce monsieur, d'aller le trouver et de lui chercher querelle, lui qui avait déjà eu 3 duels et qui ne craignait personne au monde. Camille l'avait ensorcelé sans le vouloir et justement parce qu'elle ne tenait pas du tout à le séduire. Et rien n'y faisait, ni les conseils de son ami Freinet, conseil assaisonné de raillerie qui aurait dû le piquer au vif, ni les reproches de sa mère, désolée de ne plus le voir qu'à de rares intervalles et très montée contre l'orpheline du boulevard Voltaire, ni les sages observations du père Gémozac qui envisageait avec plus de sang-froid que sa femme cette situation nouvelle. Homme d'affaires avant tout, ce grand industriel se disait que l'héritière de son associé aurait certainement, et avant peu, une grosse fortune, car les produits de l'invention Monistrol ne pouvaient que s'accroître et donnaient déjà de superbes revenus. Et cette fortune, son fils unique en épousant Camille, l'aurait tout entière après lui, au lieu d'être obligé de la partager avec une étrangère. À d'autres points de vue, ce mariage ne lui déplaisait pas. Monsieur Gémozac avait commencé par être ouvrier et il ne tenait pas à voir Julien entrer dans une famille aristocratique. Il ne comprenait que les alliances entre égaux. Mais ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était que Julien, exaspéré par les refus de Camille, ne se jetât à corps perdu dans des débordements de toute espèce. Il le soupçonnait même d'avoir déjà commencé, car le crédit qu'il lui avait ouvert était tellement dépassé que le caissier s'était cru obligé d'avertir son patron. La veille encore, Julien s'était fait remettre une somme de 10 000 francs, et il devait l'avoir perdue au jeu, car épris comme il l'était, il ne l'avait certainement pas dissipé avec des drôlesses. Il ne paraissait presque plus au déjeuner de midi, soit qu'il dormît après une nuit passée au baccarat, soit qu'il fût sorti le grand matin pour aller rôder autour de la maisonnette habitée par Mademoiselle Monistrol. Tant qu'à la fin, M. Gémozac jugea qu'il devait intervenir. Il lui répugnait de traiter Julien comme un enfant qu'on met au pain sec, c'est-à-dire de lui couper les vivres en lui fermant sa caisse, et il comprenait que les sermons paternels ne toucheraient pas cet affolé. Mieux valait s'en prendre à la cause du mal et s'adresser à Mademoiselle Monistrol elle-même. Elle ne venait plus chez lui depuis qu'elle avait échangé des mots aigres avec sa femme. Il résolut d'aller chez elle et de la confesser à fond. Il ne voulait pas croire qu'elle se conduisît mal. Il lui paraissait impossible qu'elle eût conçu de l'antipathie contre un garçon si bien partagé sous tous les rapports. Il ne voyait dans la sauvagerie qu'elle affichait qu'un caprice de jeune fille. Il avait pu déjà juger son caractère de jeune fille, et il avait déjà pu juger son caractère original et indépendant. Peut-être aussi Madame Gémozac l'avait-elle blessée dans son amour-propre. Il se faisait fort de la ramener par la douceur et de lui faire entendre raison. Et d'ailleurs, pour d'autres motifs, il lui tardait d'avoir une explication avec elle. Camille n'était pas majeure, il ne lui restait plus aucun parent. Il fallait donc de toute nécessité lui faire nommer un tuteur ou la faire émanciper. Et M. Gémozac pensait que l'émancipation était préférable. Mademoiselle Monistrol avait dès à présent d'importants intérêts à régler avec l'associé de son père, des actes à signer. Mieux valait la mettre en mesure d'administrer elle-même sa fortune. M. Gémozac voulait lui conseiller de prendre ce parti et lui offrir de se charger des démarches nécessaires. N'était-ce pas d'ailleurs la meilleure manière de lui montrer qu'il ne prétendait point peser sur ses résolutions futures, ni influer sur le choix qu'elle ferait d'un mari. Et comme le père Gémozac était avant tout un honnête homme, il tenait essentiellement à passer pour tel aux yeux de mademoiselle Monistrol. Donc un beau jour, sans consulter sa femme et sans rien dire à son fils, à l'heure où d'habitude il entrait dans son cabinet pour s'occuper de ses affaires, il prévint son principal employé qu'il allait sortir et il fit dire d'atteler son coupé. Il n'avait jamais mis les pieds chez feu Monistrol. Les gros financiers ne se dérangent pas pour les gens qu'ils commanditent, et c'était le pauvre diable d'inventeur qui se déplaçait pour conférer avec le maître de la grande usine du quai de Jemmapes. Mais Gémozac connaissait, sans l'avoir vu, la maison où son associé était mort si tragiquement. Sa femme et son fils la lui avaient assez souvent décrite depuis la catastrophe et il n'était pas fâché de la visiter car il n'avait jamais pu s'expliquer comment le crime avait été commis. De plus, il doutait très fort que mademoiselle Monistrol fût en sûreté dans cette baraque isolée et il se proposait d'insister encore pour la décider à déménager le plus tôt possible. Il partit donc, et 10 minutes après, son cocher, qui avait déjà conduit Madame Gémozac au boulevard Voltaire, arrêta son cheval devant la clôture en planche qui protégeait très imparfaitement la cour. Il descendit de voiture, chercha inutilement une sonnette pour s'annoncer, et finit par pousser la barrière à claire-voie qui tenait lieu de porte. Une fois dans la cour, il examina la maison et il fit la grimace en reconnaissant qu'elle était tout au plus bon à loger un portier. Du reste, il ne paraissait pas qu'elle fût habitée car à tous les étages, les volets étaient fermés. Il avança, pensant que le bruit de ses pas attirerait la servante, mais personne ne vint. « Ah, ça !» murmura-t-il. « C'est donc le château de la Belle au bois dormant. La petite est peut-être sortie. Mais cette fameuse bonne qui la garde si bien à ce qu'elle dit, où diable est-elle? Sa jeune maîtresse l'a peut-être emmenée, elle a bien fait, car jolie comme elle est, cet enfant aurait grand tort de circuler dans Paris toute seule. » Il avança encore, et ne sachant par où entrer dans cette maison close, il résolut d'en faire le tour pour trouver la porte. Instinctivement, il prit à droite et il la découvrit. Mais il fut tout étonné de voir qu'elle n'était pas fermée. « Diable !» murmura-t-il. « Oh, il faut que mademoiselle Monistrol soit bien peu soigneuse. Laisser son logis à la discrétion du premier venu, après le malheur qui lui est arrivé, c'est vraiment trop fort. » À ce moment, il lui sembla qu'on parlait au premier étage. Il prêta l'oreille et il finit par entendre distinctement deux voix, dont une d'homme. « Oh, se dit-il, il paraît que je tombe mal. Le monsieur qui cause là-haut doit être le rival de Julien, le rival préféré, celui que ma femme a failli rencontrer le jour où elle s'est brouillée avec la petite et que mon fils n'a jamais pu apercevoir. Les choses sont plus avancées que je ne pensais, puisqu'elle le reçoit en tête à tête, et je commence à croire que ce pauvre Julien fera bien de se retirer. Mais je ne serais pas fâché de savoir comment est fait ce prétendant et d'où il sort. » Et il s'engagea bravement dans l'escalier, en ayant soin de heurter les marches avec ses bottes et de tousser très fort. On l'entendit, car les causeurs se turent immédiatement, et un bruit de fauteuil roulé sur le parquet annonça qu'il se levait. Presque aussitôt, mademoiselle Monistrol se montra, habillée comme une femme qui vient de rentrer et qui n'a pas pris le temps d'ôter son chapeau. « C'est moi, ma chère enfant !» cria le père Gémozac. « Vous n'attendiez pas ma visite, hein ?»« Non, monsieur, » répondit Camille, sans laisser percer aucun embarras, « mais vous êtes et vous serez toujours le bienvenu, ici. » « Alors, je ne vous dérange pas. Oh, il me semble pourtant que vous n'êtes pas seul. Oh, c'est vrai, mais je serais très heureuse de vous présenter quelqu'un qui vient d'arriver. Entrez, monsieur, je vous prie. » Gémozac ne se fit pas répéter l'invitation. Il suivit Mademoiselle Monistrol dans le salon, et il se trouva face à face avec un monsieur qui se tenait debout, le chapeau à la main, et qui lui parut fort bien de sa personne. La maison n'était pas double. Toutes les pièces avaient des fenêtres sur les deux façades, et du côté opposé au boulevard Voltaire, les persiennes étaient ouvertes de sorte qu'on y voyait très clair. « Monsieur Georges de Ménestreau, » dit Camille en désignant le visiteur arrivé avant M. Gémozac. À ce nom, le père de Julien fit un haut le corps et se mit à regarder ce monsieur avec une attention presque impolie. Son fils lui avait bien dit que Mademoiselle Monistrol recevait un jeune homme, mais ne lui avait pas dit comment ce jeune homme s'appelait, quoiqu'il le sût parfaitement, Camille ne le lui ayant pas caché. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il, sans laisser à la jeune fille le temps de compléter la présentation. « N'êtes-vous pas de l'Aveyron ?»« Oui, monsieur, à qui ai-je l'honneur de parler ?»« Je suis Pierre Gémozac, et j'ai beaucoup connu votre père. Il était propriétaire de forges dans ce pays-là, et il me vendait du verre excellent. C'était un homme des plus honorables. Il est mort, m'a-t-on dit. » Il y a plusieurs années, j'avais su qu'il avait un fils et je me suis toujours demandé pourquoi ce fils n'avait pas continué les affaires. Bon, la vocation me manquait complètement, tandis que j'avais un goût très vif pour les voyages. Ce goût, j'avais assez de fortune pour le satisfaire. Je suis parti pour l'Amérique où j'ai séjourné longtemps, puis j'étais en Chine, au Japon. Et je suis rentré en France tout récemment, qu'après avoir fait le tour du monde. Mais vous ne m'aviez jamais dit que vous étiez allé si loin, murmura Camille. Ah, et moi, j'étais bien mal renseigné, reprit M. Gémozac. Je croyais, pardonnez-moi ma franchise, je croyais que ce brave Ménestreau s'était ruiné et que son fils avait disparu. Mon père a en effet subi des revers, mais j'ai hérité de ma mère et voyager n'est pas disparaître, répliqua sèchement Georges. Je suis du reste, monsieur, très heureux de vous rencontrer, d'autant plus heureux que je me proposais d'aller très prochainement vous voir chez vous. Ah, puis-je savoir pourquoi ? Pour vous demander non pas de m'accorder la maison de Mademoiselle Monistrel, puisque vous n'êtes ni son parent ni son tuteur, mais d'approuver notre mariage. Je dois bien cet acte de déférence à l'homme généreux qui a commandité son père et qui est resté son ami, son protecteur. Gémozac interrogea des yeux Camille, qui lui dit aussitôt « C'est moi, monsieur, qui ai conseillé à monsieur de Ménestreau de faire auprès de vous une démarche respectueuse, et puisque le hasard nous rassemble ici, permettez-moi d'aborder un sujet délicat. » Monsieur, votre fils vous a parlé sans doute d'un projet qu'il avait formé et qui m'honore infiniment.
Oui, parbleu, je n'y ai pas fait la moindre objection. Sa mère s'en est un peu effarouchée, mais elle s'y serait ralliée. Et je ne vous cacherai pas qu'en épousant monsieur de Ménestreau, vous mettrez mon fils au désespoir.
Mais... vous êtes libre, ma chère Camille, et je n'ai pas le droit de vous blâmer et de suivre votre inclination. Je suis même venu aujourd'hui tout exprès pour vous offrir de vous faire émanciper, et je vais m'occuper de régler nos intérêts communs de telle sorte que vous pourrez disposer de vos revenus comme vous l'entendrez. Votre compte dans ma maison sera arrêté tous les ans ou tous les 6 mois, comme vous voudrez, et vous n'aurez avec moi les miens que les relations qu'il vous plaira d'avoir. « Mais les plus affectueuses apparaissent comme avant, » s'écria la jeune fille. « Et puisque vous approuvez le choix que j'ai fait... »«
Oh, je n'ai pas à approuver. Monsieur de Ménestreau est le fils d'un brave homme, et je ne doute pas que son père lui ait transmis ses sentiments. Mais il ne trouvera pas mauvais, je l'espère, que je demande des renseignements sur lui dans le département où il a passé sa première jeunesse. »
À cette déclaration qui ressemblait un peu à une menace, Georges Ménestreau pinça les lèvres, mais il répondit avec un calme parfait.
Là, vous ferez fort bien, monsieur, de vous renseigner. Je crois qu'on m'a un peu oublié dans mon pays, mais je me flatte d'y avoir pas laissé de mauvais souvenirs. J'en suis persuadé, dit M. Gémozac, qui pensait tout le contraire, et qui se promettait bien d'écrire le jour même à ses correspondants de l'Aveyron. Il se rappelait vaguement que Ménestreau, le père, avait été ruiné par son fils, et que ce fils avait fort mal tourné. Mais il s'était écoulé des années depuis la déconfiture du maître de forge, et M. Gémozac n'était pas sûr de la fidélité de sa mémoire. Il avait le temps de s'informer avant que Camille prît un engagement irrévocable. On ne se marie pas sans se faire afficher à la mairie. Les formalités prennent au minimum une quinzaine de jours, et il n'en faut pas plus de 4 pour recevoir une réponse de Rodez ou de Decazeville. J'ai bien mal reconnu vos bontés, monsieur, reprit Camille, mais je vous le jure, je suis profondément touché de ce que vous faites pour moi. Dites bien, monsieur, votre fils, que si mon cœur eût été libre... Malheureusement, il ne l'est pas, interrompit le père Gémozac d'un ton légèrement ironique. Faudra bien que Julien s'en console. Ce sera peut-être mieux ainsi. Mais il me semblait que vous aviez juré de n'épouser que l'homme qui retrouverait l'assassin de votre père. Je sais bien que Julien n'a pas rempli les conditions du programme, mais M. de Ménestreau a sans doute été plus heureux. L'assassin est arrêté ou va l'être? Hélas, non. Je crains même qu'il ne le soit jamais. M. de Ménestreau a fait tout ce qu'il a pu, il n'a pas réussi, mais il m'a sauvé la vie. En vérité, alors je comprends que vous teniez à le récompenser. Quoi, votre vie a couru des dangers? Est-ce que l'homme qui a tué votre père a essayé de vous tuer aussi? Non, pas comme vous l'entendez. J'ai appris qu'il se cachait dans une maison en ruine, en pleine campagne, au-delà de la porte de Saint-Ouen. Ah, c'est sans doute M. de Ménestreau qui vous a fourni ce précieux renseignement. Non, non, c'est un pauvre saltimbanque de la même troupe que Zigzag. Oh, l'histoire serait trop longue à vous raconter en détail. Enfin, je suis parti la nuit avec ce saltimbanque et son fils. Ils sont pas revenus... Quoi ? Zigzag les a exterminés ? Quel tueur d'hommes ! Je le sais. Ils ont disparu, ils sont tombés dans une trappe ouverte au milieu du corridor de cette maison. Et j'ai failli partager leur sort. J'ai pu l'éviter et m'enfuir, mais au milieu de cette plaine déserte, j'ai été attaqué par de misérables qui rôdent près des barrières de Paris. Ils me tenaient, et Dieu sait ce qu'ils auraient fait de moi si M. de Ménestreau n'était pas venu à mon secours au péril de sa vie. Il m'a arraché de leurs mains. C'est fort heureux, et le hasard qui a amené là tout à point M. de Ménestreau est véritablement providentiel. Quel roman on ferait avec votre aventure ? Il n'est que trop réel, murmura Camille. Je n'en doute pas, mais il y manque un dénouement. Alors vous n'êtes donc pas revenu en plein jour visiter ce repère de brigands, cette maison machinée comme un décor de théâtre de féerie? Je n'y ai pas manqué, monsieur, j'y ai conduit M. de Ménestreau. Il a bien voulu descendre dans la cave où sont tombés les malheureux qui m'avaient servi de guide. Leur corps n'y était pas. Donc, ils ne sont pas morts. À votre place, mademoiselle, j'aurais prié M. de Ménestreau de signaler au préfet de police la maison où il se passe de si étranges choses. Comment donc est-elle faite, cette tour de Nesle ? Elle est en brique rouge, et tous les gens de cette banlieue la connaissent. En brique rouge ? C'est singulier. Je ne lis pas souvent les faits divers, cependant ce matin, j'en ai remarqué un dans mon journal. Hier, dans la plaine Saint-Denis, tout près de la route de la Révolte, une maison en ruine, qu'on appelle dans ces parages la Maison Rouge, s'est écroulé en partie à la suite d'une terrible explosion. Il paraît que les caves servaient d'entrepôt à des fraudeurs. Elles étaient pleines de barriques d'eau-de-vie qui ont pris feu, on ne sait comment, et tout a sauté en l'air. Ah, mon Dieu, est-ce que... Il y a eu des victimes, affirme le journal. Un homme grillé dans la cave et un enfant qui en est sorti en très mauvais état. Et qu'est-il devenu ? Demanda vivement Mademoiselle Monistrol. Mais le journal ne le dit pas, on l'aura sans doute porté à l'hôpital. Mais cette histoire n'a aucun rapport avec la vôtre, je me demande pourquoi je vous la raconte. Si par hasard elle vous intéressait, il ne tient qu'à vous d'être plus complètement informé, elle va faire le tour de la presse et demain les détails abonderont. Bah, il faut que je vous quitte, les affaires me réclament. Je me suis échappé de mon cabinet pour causer avec vous de vos intérêts. Nous sommes maintenant d'accord sur tous les points. Je vais m'occuper de vous et j'espère vous revoir bientôt. En attendant, je vous laisse avec votre fiancé. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Georges de Ménestro s'inclina froidement et le père Genozac sortit sans serrer la main de Camille Monistrol qui ne s'émut pas trop de ce changement de manière. Ah, c'est la fin d'une situation fausse, murmura-t-elle. Je lui ai dit la vérité sur mes sentiments et je ne me repens pas de l'avoir dite. Mais vous, mon ami, que pensez-vous de l'étrange récit que nous venons d'entendre ?
« Je n'y crois pas, » répondit M. de Ménestro. « C'est une invention de journaliste, aux abois. Et alors même que le faux serait vrai, le fait ne se rattache pas à votre expédition avec les amis de Zigzag. Ces gens-là ne s'amusent pas à faire de la contrebande. Ils sont en ce moment bien loin de la Maison Rouge.
Mais j'ai une plus triste nouvelle à vous apprendre. Triste pour moi. » Je pars ce soir.
Vous partez ?
Oh oui, mademoiselle, je suis appelé en Angleterre par un ami qui a besoin de moi pour terminer une affaire grave.
Et c'est maintenant que vous m'annoncez ce départ précipité ?
Mais hier encore, je ne le prévoyais pas. La lettre que j'ai reçue de Londres m'est arrivée ce matin seulement. Je n'ai pas osé me présenter chez vous avant l'heure où vous vouliez bien me recevoir. Et j'allais vous apprendre ce fâcheux contretemps lorsque M. Gémozac est survenu. Je n'ai pas voulu vous en parler pendant qu'il était là. Il aurait cru que je tenais à quitter la France avant que ses correspondants l'eussent renseigné sur mon compte. Quelle idée ! Vous n'avez donc pas vu qu'il est sorti furieux ? S'il s'était contenté de montrer que je lui déplaisais, je n'y aurais pas pris garde, mais il vous a manqué plus que de la froideur, et mon devoir est de vous avertir que vous ne devez plus compter sur lui. Cet homme-là ne vous pardonnera jamais de m'avoir préféré à son fils, et il fera tout ce qu'il pourra pour me nuire.
Et que m'importe, mes sentiments ne changeront pas. Ni les calomnies, ni votre absence ne me feront oublier que nous sommes fiancés.
Si j'en étais sûr, je partirai le cœur moins gros.
Ah, si vous doutez de moi, mais qu'ai-je donc fait pour cela ? Et que faut-il que je fasse pour vous prouver que je tiendrai ma promesse ? Si la loi le permettait, je vous épouserai demain.
Mais la loi s'y oppose et les formalités sont longues. Que ne sommes-nous anglais ? Nous nous présenterions devant un ministre de l'Église protestante. Nous lui déclarerions, sous la foi du serment, qu'il n'existe aucun empêchement légal à notre mariage, et il nous marierait, séance tenante. Malheureusement, dans ce pays-ci, il n'en va pas de même, et avant qu'un prêtre et un maire consentent à nous unir, mes ennemis auront tout le temps de me noircir à vos yeux.
Mais n'y parviendront pas. Mais pour vous rassurer, je suis prête à aller me marier en Angleterre.
Vous feriez cela ? Vous braveriez les préjugés, la médisance ?
Vous ne craindriez pas de vous brouiller irrévocablement avec les Gémozac ?
alors que le père a votre fortune entre ses mains.
Ma fortune, j'y renoncerai volontiers pour assurer le bonheur de toute ma vie, mais rien ne peut me l'enlever. J'ai trouvé dans les papiers de mon père l'acte de société signé par M. Gémozac.
Ah, Dieu soit loué, j'avais peur que vous n'eussiez commis l'imprudence de vous en dessaisir.
D'ailleurs, M. Gémozac est incapable de nier, et quoi qu'il advienne de mes relations avec lui et les siens, je n'ai pas la moindre inquiétude, car je suis certaine qu'il ne me fera jamais tort d'un centime. J'avoue qu'il m'en coûtera d'être jugé défavorablement par le bienfaiteur de mon père, mais je lui expliquerai ma conduite et je n'aurai pas de peine à la justifier.
Et vous consentiriez à partir avec moi ce soir ?
Non, mon ami. Si indépendante que je sois, je ne pousserai pas si loin le mépris de l'opinion des sots. On ne manquerait pas de dire que vous m'avez enlevé, et je ne veux pas qu'on le dise. J'irai vous rejoindre à Londres. Brigitte sera du voyage, et quand nous reviendrons en France, je serai votre femme légitime. Nul n'aura le droit d'y trouver à redire. Mais je ne partirai pas avant d'avoir su à quoi m'en tenir sur l'étrange événement que M. Gémozac vient de nous apprendre.
Quoi, vous vous préoccupez encore de ce canard éclos dans le cerveau d'un journaliste à court de nouvelles?
Mais comment ne m'en préoccuperai-je pas? Quelque chose me dit que l'enfant sauvé du désastre, c'est le fils de l'ennemi de Zigzag. C'est ce Georget dont je vous ai si souvent parlé. Je n'ai jamais voulu croire qu'il m'ait trahi.
Oh, je ne partage pas votre confiance, ma chère Camille. Mais, quoi qu'il en soit de la fidélité de ce petit drôle, soyez sûr que si c'était lui qui a sauté en l'air, il n'aurait pas manqué d'accourir ici.
Mais il est peut-être blessé, ou qui sait, on l'a peut-être mis en prison comme complice des contrebandiers. Et que dira-t-il si on l'interroge? Il parlera de Zigzag, de moi, de vous.
C'est possible, mais qui faire?
Allez le voir, le prier de vous raconter ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas où il est, mais je le saurai aujourd'hui, car je vais me faire conduire à la porte de Saint-Ouen et à la Maison Rouge. Je questionnerai les employés de l'octroi, les gens du quartier des Épinettes.
Et vous vous compromettrez horriblement. Je vous en supplie, ma chère, renoncez à ce projet. Et si vous tenez absolument à ce que l'enquête soit faite, permettez-moi de m'en charger.
Vous, Georges, vous qui devez partir ce soir,
je puis remettre mon voyage de 24 heures. Je préviendrai par une dépêche l'ami qui m'attend.
Et je vous verrai demain. Oh, alors, j'accepte votre proposition. Mais promettez-moi seulement que la journée ne se passera pas sans que j'aie les nouvelles de Georget.
Ou du moins de l'enfant qu'on a ramassé près de la Maison Rouge. C'est pas précisément la même chose. Enfin, je ferai de mon mieux, mais je vous le demande en grâce. Répétez-moi encore que vous me viendrez rejoindre à Londres. J'ai tant de peine à croire à mon bonheur.
Je vous l'ai promis, je n'ai qu'une parole.
Georges de Ménestreau fit un mouvement pour tomber à ses genoux, elle l'arrêta.
« Oh, j'entends la voix de Brigitte, dit-elle. Je l'ai envoyée faire une commission, elle va certainement monter ici. Mais c'est singulier, on jurait qu'elle pousse des cris de frayeur. »
Au cri succéda le fracas d'une porte fermée avec violence, et un instant après, Brigitte, pâle, échevelée, les yeux hors de la tête, se précipita dans le salon.
« Qu'as-tu donc ?» lui demanda Camille effrayée.
La vieille servante articula péniblement ces mots.
« Le chien !»«
Quel chien ?» demanda tout ébahi mademoiselle Ministrol.
« Le chien du paillasse !» répondit Brigitte avec effort.
Camille tressaillit, et M. de Ménestreau lui-même ne put réprimer un mouvement d'émotion.
« Mais où est-il ?» reprit la jeune fille d'une voix altérée.
« Dans la cuisine, mademoiselle.
Mais c'est bien heureux que j'ai pu l'y enfermer, car il n'a plus sa muselière, et il nous dévorerait tous. Il a l'air de n'avoir pas mangé depuis 8 jours.
Enfin, comment est-ce arrivé? Ben voilà, je rentrais avec mon panier au bras, et je venais d'ouvrir la porte de ma cuisine, quand j'ai senti comme un gros pavé qu'on m'aurait jeté dans les jambes, même que je manquais de tomber les 4 fers en l'air. Mais je me suis tenu après le battant. J'ai vu la vilaine bête qui avait sauté du cou sur mon fourneau. Elle s'est retournée contre moi. J'ai eu que le temps de pousser la porte que j'avais pas lâchée. Si j'avais peut-être perdu le chien m'étranglé net, et il serait monté ici pour vous en faire autant. Et il ne s'échappera pas, la fenêtre est trop haute. Et j'avais eu soin de fermer les volets avant de partir en course. Tenez, entendez-vous la vie qu'il fait là-dedans?
On entendait en effet des coups de sourds et répétés.
Saute, sale bête, grommelait Brigitte. La pente est solide et tu t'aplatiras le museau.
Seulement, s'il continue, il va casser toute ma vaisselle. Comment faire, mon Dieu?
Camille, aussi embarrassée que la vieille bonne, regardait Georges Ménestreau, qui semblait méditer sur ce cas imprévu.
Mais si nous pouvions le museler et l'attacher, dit Mademoiselle Monistrol, il nous ferait retrouver Zigzag.
Recommencer l'expédition de l'autre nuit, s'écria Brigitte en levant les bras au ciel. Avec ça que vous avez bien réussi, mais cette fois vous n'en reviendrez pas.
Ce serait une folie, mademoiselle, dit enfin monsieur de Ménestreau. Et d'ailleurs, vous n'atteindriez pas votre but, car je constate que ce chien ne possède pas les aptitudes miraculeuses que lui attribuait ce paillasse. S'il aimait tant son maître, il ne l'aurait pas quitté. Et s'il est revenu ici, ce n'est pas Zigzag qu'il y cherche, puisque Zigzag n'y est pas, à moins de supposer qu'il reconnaît tous les endroits où Zigzag a passé. La supposition serait absurde.
Mais alors, comment expliquez-vous?
De la façon la plus simple. Comme beaucoup de ses pareils, ce chien a la mémoire des lieux. Son maître l'aura chassé ou perdu volontairement, craignant sans doute que l'animal le fît reconnaître. Un dogue ne peut pas se transfigurer comme un homme, et celui-là est connu de tous les saltimbanques. Zigzag, qui a dû se faire une nouvelle tête, ne voulait pas garder avec lui une bête qui doit jouir d'une grande notoriété dans les foires des environs de Paris. Il s'en est débarrassé, l'animal a dû errer par les rues, cherchant sa nourriture. Il a fini par arriver place du Trône, où il avait séjourné. En rôdant sur le boulevard Voltaire, il est passé devant la maison où il s'est rappelé qu'une fois il était entré là. La barrière était probablement ouverte, il n'a fait qu'un saut jusqu'à la cuisine.
C'est bien possible, murmura Camille, qui n'était qu'à moitié convaincue.
Et je suis d'avis de ne pas l'y laisser, conclut monsieur le Ménestreau.
Le lâcher, alors?
Non pas, oh, je ne serais nullement surpris qu'il fût enragé, et quand même il ne le serait pas, il ne ferait pas bon se frotter à un animal de cette taille et de cette force.
Pas moi, toujours, dit Brigitte entre ses dents.
Mais qu'en ferons-nous donc? Demanda Camille.
Ce que les agents de police font des chiens suspects. Il faut le tuer tout bonnement.
Le tuer? Mais ce ne sera pas facile.
Je m'en charge, mademoiselle. Depuis qu'il m'est arrivé des aventures une nuit dans la plaine Saint-Denis, j'ai toujours un revolver dans ma poche.
Moi, je ne veux pas que vous vous exposiez.
Je n'entrerai pas dans la cuisine. Je le canarderai de loin. Les volets de la fenêtre doivent avoir des trous.
Deux, fit vivement Brigitte. Monsieur a là une fameuse idée.
Eh bien, ma brave femme, conduisez-moi à la bonne place. Mademoiselle restera ici. Il est inutile qu'elle assiste à ce vilain spectacle.
Non, je vais tout voir, répliqua Mademoiselle Monistrol, et je veux être au danger s'il y a danger.
Mais s'il y en avait, je vous empêcherais de descendre, mais il ne peut y en avoir aucun. Allez, venez, mademoiselle, venez. »
Brigitte se précipita dans l'escalier, sa maîtresse la suivit et Georges ferma la marche. En passant devant la cuisine, ils entendirent non pas des aboiements, mais ces hurlements rauques enroués qui constituent un des symptômes caractéristiques de la rage.
« Ma chère Brigitte, dit M. de Ménestreau, vous l'avez échappé belle. Si ce chien vous avait mordu, vous seriez morte dans des souffrances atroces. »«
Ah, ne m'en parlez pas, monsieur. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Dépêchez-vous de le tuer. »
Ils sortirent tous ensemble, et Brigitte les mena devant les volets hermétiquement clos qui protégeaient la fenêtre de la cuisine. M. de Ménestreau regarda par un des vasistas percé au bas des planches et dit
« Je le vois, diable, il y a au moins 6 pouces d'intervalle entre les volets et les vitres. Le tir va pas être facile, donc il ne fait pas très clair là-dedans. »
Il n'avait pas achevé qu'un bruit de carreau brisé le fit reculer. Vigoureux l'avait vu ou l'avait senti, et il s'était élancé à toute volée contre les vitres.
« Bon, reprit Georges, ce sera plus commode. » Et il arma son revolver.
Le chien sauta encore, et cette fois il parvint à se cramponner sur le rebord inférieur de la fenêtre. Le verre craqua sous l'effort de sa tête puissante, et le carreau était assez large pour qu'il pût y passer. Il passa en se déchirant, et il vint montrer au trou du volet son mufle ensanglanté. À cette apparition, Camille et Brigitte reculèrent d'effroi, et en vérité, il y avait de quoi. La tête du vigoureux passait à moitié par le trou du volet, le poil hérissé, les yeux pleins de sang, la gueule ouverte, la bave aux dents. Il poussait de toutes ses forces en hurlant à donner le frisson. Il regardait fixement M. de Ménestreau, qui n'avait pas bougé et qui le visait avec son revolver. Le coup partit et il était temps, car les volets ébranlés craquaient sous l'effort de la bête furieuse. Elle jeta un cri de douleur, mais elle ne tomba point en arrière. M. de Ménestreau avait tiré de très près et cependant la balle avait un peu dévié. Au lieu de briser le crâne de l'animal, elle lui avait percé le mufle au-dessous des yeux. Si brave qu'on soit, on ne tire pas presque à bout portant sur un chien enragé sans éprouver quelque émotion, et la main du vaillant fiancé de Mademoiselle Monistrol avait dû trembler. Et chose étrange, au lieu de se retirer pour éviter les coups, vigoureux, douloureusement blessé, redoublait d'efforts pour forcer le passage. « Éloignez-vous, ma chère Camille !» cria Ménestreau en réarmant son revolver. Camille ne bougea pas. Cet horrible spectacle la fascinait et elle n'en pouvait détacher ses yeux. Ménestreau fit feu une seconde fois et sans beaucoup plus de succès. Il creva l'œil du dogue, mais il ne parvint pas à l'abattre. Et cette nouvelle blessure ne fit qu'exciter le monstre qui, d'une violente secousse, fit sauter le crochet mal attaché. Le volet céda et vigoureux vint rouler sur le sable de la cour. Brigitte s'enfuit en criant et Ménestreau s'élança pour couvrir Mademoiselle Monistrol qui était restée résolue à partager le sort de l'homme qu'elle aimait. Il avait encore 4 balles dans son revolver. Mais le chien n'était pas frappé à mort et il ne présentait plus sa tête comme une cible enchâssée dans le trou d'une planche. Il s'était très vite remis sur ses pattes et il lui restait bien assez de force pour se jeter sur son bourreau, mais au lieu de bondir, il se traîna lentement vers lui en gémissant d'une façon lamentable. M. de Ménestreau, profitant de ce répit tout à fait inespéré, l'ajusta à loisir en plein corps et d'un 3e coup, lui cassa les reins. La balle brisa la colonne vertébrale à la hauteur des hanches.
vigoureuse, s'affaissa sans crier, et en s'élançant de ses pattes de devant, il se mit à ramper sur le ventre, en regardant toujours Georges de Ménestreau. On eût dit qu'il lui demandait grâce, et qu'il lui reprochait de le traiter si cruellement. Il ne réussit pas à l'attendrir. Un dernier coup le frappa entre les deux épaules et le renversa sur le dos. L'œil qui lui restait se rouvrit encore une fois, se fixa sur l'exécuteur impitoyable et se referma pour toujours. « Enfin, il est mort !» dit entre ses dents M. de Ménestreau. « Il ne fera plus de mal à personne. Mais il avait la vie dure. J'ai cru un instant que je n'en viendrais pas à bout. Vous avez dû avoir bien peur. Pour vous, oui, et j'avoue que l'agonie de cette malheureuse bête m'a profondément ému. Oh, je comprendrais cela s'il s'agissait d'un chien quelconque, mais si vous êtes sûr que celui-là appartenait à Zigzag... Mais absolument sûr, interrogez Brigitte et elle vous dira que c'est bien lui, oui, acheva la vieille servante, qui reparut tout à coup sur le champ de bataille. Il n'y en a pas deux pareils. Alors, reprit M. de Ménestreau, il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser de sa carcasse. Apportez-moi une bêche, je vais l'enfouir dans l'une de ses plates-bandes. Ah mais non, par exemple, vous voulez donc que nous attrapions la peste? Laissez-moi faire, monsieur, je le traiterai sur le boulevard Voltaire et je l'y laisserai, et la police se chargera de l'enlever. N'y manquez pas, au moins. J'y veillerai, mon ami, dit Mademoiselle Monistrol. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler que vous m'avez promis de vous informer de ce pauvre enfant. J'y vais de ce pas, à la Maison Rouge d'abord, et si je n'y recueille aucun renseignement positif, j'irai en demander au commissaire de police du quartier des Épinettes. Merci. J'attendrai impatiemment votre retour. Ne me faites pas languir. Je n'aurai garde, puisque c'est la condition que vous mettez à votre départ pour l'Angleterre. Et je ne désespère pas de vous rapporter aujourd'hui même des informations certaines. Vous ne comptez pas sortir. Non, mon cher Georges, je ne suis pas encore remise de la secousse que je viens d'éprouver. Cette scène m'a bouleversée. J'ai besoin de me reposer pour me remettre. Allez, mon ami, et revenez vite, conclut Camille en serrant la main de son amoureux qui s'éloigna au pas accéléré. Brigitte assistait à ses tendres adieux et à son air renfrogné. On voyait bien qu'elle n'était pas contente. « C'est donc vrai que vous voulez partir ?» demanda-t-elle brusquement à sa maîtresse. « Oui, répondit avec un peu d'embarras la jeune fille. « Mais nous ne nous quitterons pas, je t'emmènerai. »« Moi, à Londres, dans le pays des gouttes d'amour, jamais de la vie, j'y mourrai de chagrin au bout de 2 jours. Je suis comme les vieux arbres qui sèchent sur pied quand on les transplante. » Et puis l'Angleterre, voyez-vous, mademoiselle, c'est trop loin de Montreuil-les-Pêches. Sans compter, reprit-elle d'un air grognon, que si vous y allez pour vous marier avec ce beau brun, vous ferez une fameuse bêtise. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais tant pis, c'est lâché. J'avais ça sur le cœur, il fallait que ça sorte. Et je voudrais que votre pauvre père fût là pour m'entendre. C'est pas lui qui vous conseillerait de suivre un monsieur que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Mais tu oublies qu'il m'a sauvé la vie, interrompit Camille. Allons donc, il devait être d'accord avec les voyous qui vous ont tombé dessus. Mais cet homme-là n'en veut qu'à votre argent. Ah, parlez-moi de l'autre, le blond. On sait qui il est, celui-là, et il vous aime pour vous-même. « Assez, » dit impérieusement Camille, d'autant plus irritée des observations de Brigitte qu'elle reconnaissait, jusqu'à un certain point, la justesse.